L B D. La base décide. La base du film.
Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation dans une série consacrée à l'école inclusive. Dans ce premier numéro, on vous parlera d'histoire et on reviendra sur le long parcours de l'inclusion des élèves en situation de handicap. On retrouve tout de suite Elodie, qui sera en compagnie de Nara.
Bonjour, donc moi c'est Elodie, je suis professeure des écoles en établissement spécialisé dans les Bouches-du-Rhône et aujourd'hui je suis avec Nara. Bonjour Nara.
Bonjour Elodie. Moi c'est Nara, je suis professeure des écoles en Haute-Garonne et aujourd'hui remplaçante en milieu entre guillemets ordinaire, mais j'ai travaillé pendant 7 ans en ITEP. Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, et surtout, il est question ici, puisque l'école inclusive ne se limite pas justement aux instituts et aux centres médico-sociaux.
Très bien, donc justement aujourd'hui on s'intéresse à l'école inclusive, et pour comprendre comment elle fonctionne aujourd'hui, comment elle est aujourd'hui, on va tenter un petit peu de retracer son histoire depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour commencer, Nara, est-ce que tu peux nous expliquer comment est appréhendée la scolarisation des élèves en situation de handicap à la fin du 19e siècle ?
Je vais essayer. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin du 19e siècle, le constat qui est fait est que proposer la même école à toutes et tous, de manière donc monolithique, n'uniformise pas les résultats, évidemment. Les enfants n'apprennent pas toutes et tous de la même manière, et cela s'oppose au projet républicain dans son principe d'universalité, bien entendu supposé. Et les questions suivantes se posent à ce moment-là. Hein. Comment expliquer cet inégal accès aux apprentissages et quelle réponse y apporter ? Et aussi, quelle place donner à ces élèves qui sortent de ce qu'on peut dire la norme scolaire.
Alors justement, du point de vue des réponses qui sont apportées à cette période-là, est-ce que l'école se transforme pour répondre aux besoins de ses élèves ?
Non, l'école dans ses structures n'est pas remise en question. Il est affirmé que ces élèves ne peuvent pas être pris en charge par l'école ordinaire et devraient être pris en charge dans des lieux séparés, des lieux spécialisés, voire ne devraient pas être pris en charge du tout.
Donc, si je comprends bien, on est sur un enseignement spécialisé qui est mis en avant pour les élèves en situation de handicap ?
Oui, c'est ça, bien sûr. Du coup, entre 1905 et 1909, la commission Bourgeois, en application de la loi de 1882 sur l'instruction primaire obligatoire, travaille sur la question de la scolarisation justement de ces élèves. Apparaissent ce qu'on a les classes de perfectionnement, celles qu'on a appelées les classes de perf, et qui, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes instits de l'époque qui étaient évidemment sans formation, parachutés dans ces classes, et que, évidemment, c'est la même situation. Aujourd'hui, on peut faire le même constat. Et ce sont des classes séparées, dans des écoles autonomes ou dans les écoles communales, qui accueillent de 15 à 20 élèves, dits arriérés. C'était arriéré jusqu'en 64, parce qu'en 1964, on les appelle débiles mentaux, et c'est les termes des textes officiels.
Mais alors, du coup, dans ces classes de perf, qu'est-ce que font ces élèves, concrètement parlant ?
Alors, ces élèves ont un enseignement spécialisé, basé sur un programme d'activités manuelles, artistiques, de plein air, et aussi des activités de français, de mathématiques, de géographie, mais toujours rattachées à la vie pratique.
D'accord. Et jusqu'à quand on garde ces classes de perfectionnement dans notre système scolaire français ?
Alors, on peut dire que jusque dans les années 90. À ce moment-là, on va parler de réadaptation, de réparation d'un point de vue éducatif et pédagogique.
Est-ce qu'on a à cette époque-là d'autres lieux qui accueillent ces élèves en situation de handicap ?
Oui, tout à fait. En parallèle des classes de perf, il y a des sections spéciales en dehors de l'école, au sein des hôpitaux psychiatriques ou des établissements médico-pédagogiques. On a des instituts de rééducation et voilà, des centres médico-sociaux ensuite. De toute façon, soit en interne ou au sein des différentes institutions, ou dans les écoles, de toute façon, ces élèves-là, ils sont cachés.
Donc finalement, pour résumer, comment on pourrait définir la place de ces élèves au sein de l'école à cette époque-là ?
On ne peut pas dire qu'ils et elles soient intégrés, et encore moins inclus. Parce que bon, on ne parle même pas de ceux et celles qui ne sont même pas scolarisés. Hein. Donc malgré les classes de perfectionnement, qui sont souvent au sein des locaux des écoles, de toute façon, ils sont tout de même exclus des autres élèves.
Et les structures spécialisées, à quel moment elles sont créées pour accueillir ces élèves-là ?
Alors, il faut tout de même attendre, après la Seconde Guerre mondiale, pour que les institutions spécialisées du type IME, IMPRO, IR, voient le jour. Et en 1963, c'est le certificat d'aptitude à l'enfance inadaptée qui est mis en place, donc ce qui sera l'ancêtre du KPI.
Donc à cette époque-là, on peut dire qu'on n'est toujours pas dans une logique d'intégration, encore moins dans une logique d'inclusion, à peu près jusqu'aux années 50. Du coup, à quel moment est-ce que ça commence à changer ?
Ouais, on peut dire que ça commence à changer à partir des années 70. On passe à l'intégration et à l'adaptation avec la création des GAP, qui sont les groupes d'aide psychopédagogique, et la première loi qui inscrit l'obligation d'éducation pour les personnes en situation de handicap. Et des postes d'enseignantes et enseignants spécialisés sont donc créés. Et en 91, les CLIS, donc classe d'inclusion scolaire, les SECPA et les UPI voient le jour. Les UPI, ce sont les futurs ULIS, collèges et lycées.
Et donc, à cette période-là, on se souvient qu'en plus des postes d'enseignants, enseignantes spécialisés qui sont créés, on a le début, à partir du milieu des années 80, de l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans les classes par une aide humaine, des collègues qui vont massivement être recrutés sous la demande pressante des familles en contrat précaire. Donc on se souvient de tous ces emplois aidés qui ont existé, les TUC, les CEC, les CES, avec une forte pression pour que l'État prenne ces personnels-là en charge. Donc finalement, on voit, d'après ce que tu nous dis, qu'il y a un changement de logique qui commence à apparaître. Mais on reste dans une logique d'intégration et pas d'inclusion, avec cette idée que dans ce qu'on appelle intégration, c'est l'élève qui doit s'adapter à la norme scolaire, alors que dans l'inclusion, on le verra plus tard, c'est l'école qui s'adapte à l'élève en situation de handicap.
Ouais, exactement, ouais, tout à fait, oui, tout à fait, Elodie. Oui, pour parler d'inclusion, il faut attendre 2005, hein, avec une série de lois qui sont faites à ce moment-là, qui cherchent à transformer les regards porté sur le handicap dans la société et dans l'école. et à changer les structures et les pratiques.
Alors, justement, c'est vrai que cette loi de 2005, elle est assez fondamentale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Et voilà, c'est ça. C'est la loi du 11 février 2005. C'est celle pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi, à juste titre, hein, elle est considérée comme fondatrice car elle intègre au droit commun des spécificités pour les personnes handicapées, comme l'obligation de scolarisation.
Et pour rebondir sur ce que je disais précédemment, sur l'accompagnement humain dans les classes, à partir de 2005, on a l'arrivée des AVS, les auxiliaires de vie scolaire, toujours en contrat précaire, en contrat aidé, les CUI, CAE, et également en contrat AED, qui font fonction en fait d'AVS et d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et finalement, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres lois qui vont dans le sens de l'inclusion ? Comment ça progresse ?
Alors ensuite, donc le 2 avril 2009, un arrêté concernant la création des unités d'enseignement dans les établissements médico-sociaux paraît. Il y aura la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Et cette loi consacre pour la première fois le principe d'inclusion scolaire. En 2015, une circulaire relative aux unités localisées pour l'inclusion scolaire, donc les ULIS, sort. Du coup, oui, c'est en 2015 que ça bascule.
Effectivement, on a ce changement de CLIS qui bascule au dispositif ULIS, de même que les ITEP vont basculer en DITEP. Donc, on passe de la logique de classe à la logique de dispositif, ce qu'on retrouve encore massivement aujourd'hui.
Tout à fait, Elodie. Et puis bon, enfin, en 2019, sous Blanquer, la loi... pour une école de la confiance. Et voilà, cette loi va affirmer une école inclusive et elle va se limiter à l'affirmer car bien entendu que le ministère est dans un cadre d'austérité budgétaire depuis de nombreuses années et que cette loi ne va être que affirmée parce qu'on a un manque de moyens à tous les niveaux.
Donc justement, sur cette question des moyens, on a une circulaire très importante en 2019 qui accompagne la loi pour l'école de la confiance. C'est la circulaire qui va entériner la précarité de nos collègues qu'on appelle désormais AESH, accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap, qui va préciser leur mission. Mais toujours en restant dans un cadre précaire, même si on a un passage en contrat de droit public, on reste sur du temps partiel subi, on reste sur des salaires qui sont en dessous du seuil de pauvreté, hein, maximum entre 800 et 900 euros par mois. Et par-dessus tout, on a dans cette circulaire la mise en place des PIAL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui, on le sait aujourd'hui, ont fortement dégradé les conditions de travail de nos collègues AES. Et dégrader la qualité de la prise en charge des élèves concernés. Et finalement, qu'est-ce que ça change vraiment pour l'école, ces séries de lois ?
C'est un gros changement, puisque maintenant, c'est à l'école de s'adapter à la diversité. L'école doit être à tous et toutes, et pour tous et toutes. La logique de l'école s'est déplacée vers la prise en compte des élèves, dits, entre guillemets, « à besoins éducatifs particuliers ».
Mais finalement, quand on y réfléchit, on voit bien que l'école, elle est passée de l'intégration à l'inclusion et que tous les élèves peuvent être scolarisés et apprendre dans de bonnes conditions. Alors finalement, pourquoi on continue cette lutte pour l'école inclusive ?
On continue de lutter pour que l'école soit vraiment inclusive, justement. Parce que sur le papier, tout est très joli. Mais il ne suffit pas de décréter l'école inclusive pour qu'elle soit pleinement mise en œuvre. Bah, comme tu as dit tout à l'heure, les moyens pour atteindre les ambitions d'une école vraiment inclusive, bah, ils n'y sont pas.
Alors d'après toi, Nara, si on fait les constats actuels, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans notre système éducatif pour obtenir une école vraiment inclusive ?
Même si on observe depuis plus de 15 ans des publications, des textes officiels qui marquent de plus en plus une volonté inclusive forte, à l'école comme dans la société en général, nous constatons que dans le même temps, une école est figée dans une organisation systémique qui continue d'exclure, de stigmatiser, de trier les élèves. Et cette école, elle répond aux directives du ministère. Le ministère, il met en place justement, à travers un manque de moyens, renforce cette école qui trie socialement les élèves dans son ensemble. Et on peut voir cela dans les programmes, les constitutions de classe, les effectifs, les manques de formation des enseignants et des enseignantes, les évaluations des élèves, les logiques d'orientation subies. Et qui, évidemment, il y a aussi beaucoup d'enfants et de jeunes qui restent aujourd'hui non scolarisés et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas accès à l'école. Certains et certaines sont à la maison par absence de solution ou dans l'attente d'une place qui se libère dans un établissement spécialisé. Et nos collègues de l'AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap tous les jours restent dans une précarité, comme tu l'as dit, Élodie, très très bien, une précarité imposée avec un salaire indécent, un salaire en dessous du seuil de pauvreté et des conditions de travail de plus en plus dégradées.
Donc finalement, on fait toujours le constat d'une souffrance au travail pour les personnels liés à ces conditions de scolarisation sans moyens, une souffrance également pour les élèves qui sont les premiers concernés et qui subissent de plein fouet ces dysfonctionnements, une souffrance également pour les familles pour lesquelles bien souvent ce sont des parcours de combattants ou combattantes pour avoir des prises en charge à la hauteur des besoins pour leurs enfants. Et finalement, même si on pense que l'école, elle a évolué vers une école inclusive, ben, on a toujours besoin de moyens pour la mettre réellement en place. Et nous, à Sud Éducation, on attend toujours une volonté politique forte de mettre en place ces moyens, à la fois pour une école, mais également pour une société vraiment inclusive. Et c'est aussi pour ça qu'on se bat à Sud Éducation, pour une autre école et pour une autre société. Merci Nara d'avoir répondu à mes questions.
Et merci Élodie de les avoir posées et approfondies.
On espère que ce podcast aura répondu à vos questions. Si vous voulez en savoir plus sur l'école inclusive, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de notre série qui seront consacrés au métier de l'inclusion. Et vous pouvez retrouver de nombreuses infos dans notre brochure École, Inclusion et Handicap. Et d'ici là,